amis auditeurs. Nous allons dans quelques instants retrouver le petit quart d'heure franciscain « Pax et Bonum », « Paix et tout bien », consacré donc dans cette série à la vie du fondateur du franciscanisme, c'est-à-dire le François, frère François, le frère universel, dans l'ouvrage, à travers l'ouvrage de Julien Green, historien qui nous représente déjà l'époque, le contexte, et nous, à travers aussi les sources franciscaines, nous révèle étape par étape la vie et l'œuvre de François d'Assise dans une édition audio des éditions Saint-Léger. Nous avions donc vu dans l'émission précédente la rencontre avec Claire et l'histoire véritablement de Claire d'Assise, la fondation des Clarisses, avec cette petite plante de François, lumière aussi pour ce siècle. Et nous allons poursuivre avec cet idéal franciscain en replaçant aussi dans le contexte avec la grande bataille des croisades, le tombeau du Christ qu'il fallait donc libérer et conserver. Et nous pourrions l'intituler « François face au monde ». Bonne écoute.
La vie est à réinventer. L'idéal franciscain brillait alors d'un éclat comparable à celui d'une aurore, dissipant peu à peu l'obscurité des sectes naissantes. La fraternité essaimait dans tout l'ombris. De tous côtés, bourgades et villages voyaient surgir de ces gais compagnons vêtus de bures grossières, chantant à pleine voix ou faisant des tours pour attirer les gens et leur annoncer la bonne nouvelle. On croit déjà entendre le tambourin de l'armée du salut. Ces missionnaires délurés, François les nommait les jongleurs de Dieu, comme si le Seigneur escamotait les âmes. Mendiant leur pain, mais offrant leurs bras en échange. Faire les foins, balayer, laver, ou, s'ils savaient comment s'y prendre, façonner des ustensiles de bois. Jamais ils n'acceptaient d'argent, et se logeaient comme ils pouvaient. Parfois chez le prêtre, sous un auvent, dans un grenier ou une grange, et la nuit passée à la belle étoile ne devait pas être rare. On se faisait à eux. Bien ou mal reçus, ils n'en prêchaient pas moins avec la ferveur des néophytes et leur foi agissait en profondeur. C'étaient les prophètes d'un monde nouveau, où le dégoût des richesses et la passion de l'Évangile changeaient la vie et apportaient le bonheur à tous. À quoi servait d'entendre les Vaudois et ces étranges parfaits dont le langage devenait incompréhensible? La simplicité franciscaine effaçait l'hérésie. Le long des routes, les nouveaux frères allaient deux par deux, l'un suivant l'autre, ceux-là même dont François avait jadis entendu les pas dans une vision prophétique. Ces débuts du franciscanisme avec ses apparences de douce anarchie devaient céder la place à un ordre. Chaque année voyait se doubler le nombre des frères venus de tous les horizons, et certains parmi eux destinés à jouer un rôle important dans une des plus grandes aventures des idées chrétiennes. Plus sensibles encore que les hommes à un appel mystique, les femmes cherchaient à San Damiano la paix intérieure que menaçait la turbulence d'un monde voué à la violence. La lumière de François s'étendait au premier couvent de dames amoureuses du Christ. Un chant de joie montait vers le ciel. Ce fut un moment qui ne se retrouva jamais tout à fait. On n'a pas deux fois le même coup de foudre. La croisade des enfants. Le grand scandale du temps, c'était que le sépulcre du Christ restait aux mains des infidèles, et les croisades s'étaient succédées pour sa délivrance, toutes infructueuses. Il y en eut quatre déjà. Et la cinquième se prépare, en Allemagne et en Hongrie. C'était l'affaire des rois et de la chevalerie. Mais dans le peuple, partout en Orient, la poussée vers le Christ dépassait les frontières dogmatiques de l'Église. Cela ressemblait à une ruée des âmes à l'assaut d'un monde idéal où triomphait l'Évangile. Sur les catholiques en particulier, la personne du Sauveur exerçait une attirance dont nous avons perdu la profondeur, parce que, sauf chez des isolés, Notre foi du XXe siècle se fait débile et formaliste. Nous avons perdu l'essentiel, qui est l'enthousiasme que nous baptisons fanatisme. Sans le savoir, François était suivi par des foules durement qualifiées d'hérétiques et qui étaient comme lui amoureuses du Christ. On en avait vu des hommes qui, le sourire aux lèvres, montaient sur le bûcher avec la certitude que Jésus leur parlait. Comment douter qu'au sein même de l'Église, les enfants se soient trouvés parmi les plus accessibles à l'amour divin, on oserait presque dire les plus vulnérables. Leur faire perdre la tête était trop facile. Leur cœur était franciscain, un cœur de croisé, comme celui de François. Dans quelle cervelle malade a pu naître l'idée que là où échouaient les enfants pourraient réussir? Le mouvement semble avoir pris d'un coup, et sans contestation, en France, en Italie, sur les bords du Rhin. Un moine cistercien, Albéric des Trois-Fontaines, d'une abbaye près de Chalon-sur-Marne, nous a laissé en 1241 un récit de la tentative française. Étienne, un jeune berger d'un village tourangeau, se crut choisi par Dieu pour mener à la guerre sainte la jeunesse du pays. Une sorte de délire mystique s'empara des enfants de tous les milieux, riches et pauvres. Il en vint 30 000 depuis l'âge de 8 ans, et ceux de 8 ans entraînaient les adolescents. Ce fut comme si Jésus-Christ appelait au secours. Les parents laissaient faire, subjugués par la mystérieuse puissance de l'élan général. Ils descendirent la vallée du Rhône en chantant, portant des croix, les plus petits sur les épaules des aînés. Cette armée d'innocents atteignit Marseille. Là, deux armateurs avisés, Hugues de Fer et Guillaume Port, nom qu'on dirait inventé par le diable, les embarquèrent gratuitement pour la Palestine sur 7 vaisseaux dont 2 sombrèrent. Les 5 autres se dirigèrent sur Bougie et sur Alexandrie. Le tout fut vendu à des marchands d'esclaves. Quelques-unes de ces victimes, affolées par la peur, réussirent à s'échapper. Beaucoup périrent. Les autres servirent d'une façon ou de l'autre aux caprices de leur maître. Et au fond de Harem, on entendait parfois de mélancoliques chansons françaises. L'Allemagne eut sa part de l'horreur. À Cologne, Nicolas, un jeune garçon, réunit 20 000 petits croisés des 2 sexes. Il leur fit franchir les Alpes, non sans d'atroces difficultés, mais il leur avait promis qu'en arrivant à Jérusalem, ils verraient s'ouvrir toutes grandes les portes du paradis qui les accueillerait tous ensemble. Lorsqu'ils atteignirent enfin Gênes, où ils devaient non s'embarquer pour la Terre Sainte, mais selon leurs fermes espérances, aller à pied jusqu'à Jérusalem, la Méditerranée devant miraculeusement s'assécher sous leurs pas, on se moqua d'eux. Profondément démoralisés et épuisés, ils durent se séparer et regagnèrent comme ils purent la maison familiale. Ceux-là, au moins, pouvaient en fin de compte s'estimer heureux. Mais combien de petits cadavres ils durent ensevelir sur leur route dans les montagnes. En Italie, l'évêque de Brindisi tenta d'empêcher l'embarquement de cette armée d'hallucinés, mais ne put sauver les filles qui furent enlevées et prirent le chemin des maisons de prostitution ou vendues comme servantes, car l'esclavage existait toujours, même à Assise. L'Europe entière fut atterrée de ces expéditions qu'elle n'avait pas eu le courage d'interdire. Innocent III s'était écrié « Ces enfants nous font honte. Pendant que nous dormons, ils s'expatrient joyeusement. » Mais qu'avait-il fait pour les retenir? Il n'est pas possible que François n'ait pas été ému de ce terrible désordre qui déshonorait la chrétienté. On voudrait savoir ce qu'il en a pensé, ce qu'il en a dit, mais les chroniqueurs du temps ont cru plus sage de garder un silence pudique, si toutefois les textes n'ont pas été détruits. Les générations d'historiens se succèdent et se contredisent. Réfuter les prédécesseurs semble être un plaisir dont ils ne se lassent pas. On en arrive à nier en bloc des faits reçus pour authentiques depuis des siècles. De nouvelles erreurs s'ajoutent alors aux vulnérables erreurs d'hier, mais ce jeu n'est pas sans profit, car il arrive que certaines vérités s'en trouvent clarifiées. Il faut quelquefois prendre la main à l'histoire pour la retenir de céder au vertige de la légende. Mais on peut aller un peu loin en ce sens. De nos jours, par exemple, n'avons-nous pas vu mettre en doute que Jeanne d'Arc fut brûlée à Rouen? Dans le cas de François, il s'en est fallu de peu que ne fussent détruits tous les témoignages concernant sa jeunesse. Tout au long des siècles, on a jeté au feu des documents. À côté de l'histoire qui parle, se tient le spectre muet de l'histoire réduite en cendres. Touchant la croisade dite des enfants, on en a admis l'essentiel, sur la foi d'un document de 1240, mais qui fut remanié 20 ans plus tard. Cela n'exclut pas l'hypothèse que d'autres documents aient pu disparaître dans un pieux holocauste pour sauvegarder la réputation de certaines villes âpres aux gains, ou de certains personnages comme le roi de France Philippe Auguste qui fit chasser les jeunes croisés des abords de Paris. Qu'importe, on ne peut étouffer les témoignages qui nous sont parvenus. Quelques années plus tard, ce qu'on appelle la justice humaine passa. Hugues de Fer et Guillaume Port, les marchands marseillais trafiquants de chair humaine, furent pendus par ordre de Frédéric II.
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre émission consacrée à François d'Assise à travers l'œuvre de Julien Green dans les éditions Saint-Léger. Nous allons découvrir des épisodes moins connus de la vie de François d'Assise. Que le Seigneur vous donne la paix et tourne vers vous son visage.